Tourne avec moi dans l'Évangile, dans l'Épître de Romains, à partir du verset 15. Romains, chapitre 1, verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir, c'est-à-dire je suis prêt à tout pour vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Et ici, la justice de Dieu, c'est comment Dieu rend les hommes justes devant lui, par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ici, c'est un passage que Paul utilise en Habacuc, chapitre 11, lorsqu'il dit, le juste vivra par la foi. Mais regardez ce que Paul dit au début du verset 17, il dit que non seulement le juste vivra par la foi, mais qu'il vivra aussi pour la foi. Alors souvent, on vit par la foi, mais pas nécessairement pour la foi. Et quelle est la différence entre les deux? On va essayer de voir ça rapidement ce matin. Prions. Seigneur, merci pour encore une fois pour l'Évangile que tu nous as donné, cet Évangile de grâce, Seigneur, qui est une puissance encore aujourd'hui, pour sauver quiconque croit. Seigneur, d'abord, elle est annoncée aux Juifs. Seigneur, les Juifs l'ont rejetée. Maintenant, Seigneur, tu l'as annoncée aux gentils. Et Seigneur, les gentils, ce sont les païens, ce sont ceux qui n'étaient pas en Israël, Seigneur, eh bien, tu as aussi annoncé à travers tes missionnaires cet Évangile. Et Seigneur, aujourd'hui, si nous pouvons la lire, si elle est vivante dans nos vies, si elle peut agir dans nos vies, Seigneur, c'est parce qu'elle a été suffisamment puissante pour mettre en lumière ce que nous étions, ce que nous pouvions être en Jésus-Christ et ce que tu veux que nous devenions en lui. Seigneur, bénis ta parole ce matin, que nous puissions sortir fortifiés, grandis, de t'avoir rencontré. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. À une réception de mariage, les gens se mêlaient les uns avec les autres et partageaient ensemble dans la bonne humeur. Mais dès que le maître de cérémonie prend le micro et qu'il va dire « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter la famille de la mariée », eh bien tout le monde va se taire parce qu'il savait que les réjouissances étaient sur le point de commencer. De même, lorsque les gens entendent l'hymne national lors d'un événement sportif, que ce soit le foot, que ce soit le basket, le rugby, eh bien les gens savent que le match est sur le point de commencer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les gens se taisent. Et les versets 16 et 17, ici, ressemblent à un fracas de cymbales au milieu d'une pièce musicale. Les cymbales résonnent à vos oreilles et retiennent rapidement votre attention. Ah, vous allez voir un orchestre, vous allez voir un orchestre jouer, et finalement, il y a de la belle musique, les violons, et puis les instruments jouent. Et quand il y en a un qui se lâche avec les cymbales, ben vous venez de saisir les cymbales, quoi. Hein. Vous les entendez bien, elles retiennent rapidement votre attention. Et ces paroles ici, citées par Paul dans versets 16 et 17, proclament le message de l'Évangile avec force. Car si nous comprenons ces paroles, nous aurons alors un bon fondement pour bien comprendre que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. C'est pas le prédicateur qui est la puissance. C'est le message se trouve la puissance se trouve dans le message. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, Paul dit que l'Évangile, eh bien, c'est la prédication de la croix qui est la puissance pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu, c'est qu'il ne nous traite pas. Ça fait partie de sa grâce, c'est qu'il ne nous traite pas comme on le mérite. C'est ça, l'amour de Dieu. Et Paul nous dit que le message qui agit avec puissance dans la vie des gens, c'est Christ crucifié et Christ ressuscité. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, pour pas que le message soit vain, bien, je n'utiliserai pas mes paroles à moi, les paroles de la sagesse humaine, mais je vais utiliser celles de l'Évangile, la prédication de la croix, qui est une folie pour les uns, mais sagesse aussi pour ceux qui l'ont accepté. Paul commence en disant, je n'ai point honte de l'Évangile. Et moi, je me suis demandé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pourquoi quelqu'un aurait honte d'annoncer l'Évangile dans le monde? Pourquoi les gens auraient honte d'annoncer l'Évangile dans le monde? Et si nous sommes honnêtes, eh bien, on a tendance à vivre comme si nous étions gênés par l'Évangile, comme si l'Évangile ne nous gênait. Permettez-moi de vous donner quelques exemples précis. On ne fait pas toujours attention aux occasions qui se présentent pour partager la vérité avec nos amis, même si nous savons qu'ils ne peuvent pas être sauvés autrement que par le message du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Deuxièmement, on est gêné, souvent, on est gêné quand on va au restaurant de rendre grâce, même si on sait qu'on doit tout au Seigneur. Les chrétiens m'ont déjà dit que quand ils allaient chez McDonald's, ils allaient aux toilettes pour rendre grâce, alors ils revenaient après et ils pouvaient prendre leur repas. On est souvent gêné pour rendre grâce. Moi, ça m'est arrivé une fois, pas de prier au McDo, mais bon, vous savez que c'est mon lieu de rendez-vous de McDo, mais ça m'est arrivé de rendre grâce et j'avais les yeux fermés. Quand j'ai ouvert la tête et j'ai ouvert les yeux, j'ai deux personnes qui me pointaient, quoi. Alors, je sais pas s'ils pensaient que j'étais témoin de Jéhovah, mais je leur ai fait un signe, mais je voyais qu'ils me regardaient par respect, quoi. Et on doit tout au Seigneur, et je pense que même quand on prend un repas, on devrait se rendre grâce au Seigneur. Peu importe ce que les gens vont penser autour de nous, c'est aussi un témoignage, quoi. Quelqu'un peut se lever, venir vous voir, dire, écoutez, je vous ai vu prier, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous priez? Vous priez, vous, quand vous prenez un repas. C'est l'occasion pour ouvrir une porte, pour donner le témoignage de ce qui fait l'espérance dans nos cœurs. Ensuite, on est porté à proclamer seulement la partie de l'Évangile que les gens aiment entendre. Les bénédictions, la paix, l'amour, et on ne tient pas compte des vérités concernant le péché, la colère, le jugement et l'enfer, même si en agissant ainsi, on fausse le vrai message du salut. Pourtant, même les fabricants de médicaments, frères et sœurs, annoncent à la télévision, qui annoncent le produit à la télévision et qui disent soulager certains problèmes de santé, sont obligés de vous mentionner les conséquences, toutes les conséquences qui pourraient éventuellement apparaître suite à la prise de médicaments. Et en ce qui concerne l'Évangile, on a le devoir d'avertir ceux que nous aimons de certaines conséquences qui attendent ceux qui ignorent le commandement de Dieu de se repentir et de croire. Frères et sœurs, les médicaments soulagent, les thérapies soulagent. Mais Dieu dit, je suis le Dieu qui guérit, Christ guérit les cœurs. Et les compagnies de médicaments, ils l'ont très très bien compris. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur une boîte de médicaments. En tout cas, chez nous, c'est clair, au Canada, je ne sais pas si c'est à cause des lois. Mais si vous prenez une boîte de Dafalgan, c'est marqué soulagement rapide du mal de tête. Pas guérison rapide. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire traîner devant les guides des tribunaux. Les compagnies de médicaments, ils savent qu'ils ne guérissent pas personne. Ils soulagent. Ils ne guérissent pas personne. Et de peur d'avoir des poursuites au civil, ils marquent soulagement rapide du mal de tête, soulagement rapide des reins, soulagement rapide des douleurs d'estomac. Vous savez, là, la fameuse annonce des pompiers là, qui tapissent l'estomac, hein? Soulagement rapide, ben oui. Je connais pas les noms de médicaments, ça passe du Dafalgan. Mais c'est marqué soulagement. Écoutez bien l'annonce. Soulage rapidement vos douleurs d'estomac. Mais le Seigneur c'est le Seigneur qui guérit. Tu t'amènes à ça? Le Seigneur, il est clair dans l'Ancien Testament. Je suis le Dieu qui guérit. Et dans le Nouveau, en se faisant âme dans la personne de Jésus-Christ, il montre que c'était pas un menteur. Ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, il vient le faire dans le Nouveau. Et en tant qu'homme, dans son 100% humanité, il vient guérir les cœurs qui sont blessés par toutes sortes de situations de la vie. Les cœurs qui sont vides, il vient les remplir, il vient les combler de sa joie et de sa paix. Certains sont gênés de dire à leurs amis ou à leurs confrères de travail qu'ils ont choisi de vivre selon les normes de Dieu, lorsqu'on leur demande pourquoi ils se comportent différemment des autres. On a peur souvent, pourquoi on a peur d'être mis à l'écart, surtout dans une usine où il y a 200 ou 300 personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut témoigner pendant nos heures de travail, aller sur chaque chaîne de montage, dire « Écoute, t'es au courant, je suis chrétien. » Non, mais par notre comportement, souvent, on a peur, parce qu'on a un comportement différent, si les gens nous posent des questions, on a peur de dire souvent qu'on est chrétien, parce qu'on a honte d'être rejeté. Quoi. Et Paul dit « Je n'ai point honte. » Et on est devant un gars qui a payé le prix, quoi, qui était prêt à payer le prix de sa vie. « Je n'ai point honte. » Maintenant, c'est peut-être pas nécessairement une honte, ça peut être une gêne aussi, on peut être gêné. Il y a une différence entre avoir honte et être gêné. Mais Paul dit « Je n'ai point honte. » Je n'ai point honte d'annoncer l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Pourquoi cet embarras, pourquoi cette gêne? À cause du message lui-même, parce que l'Évangile met en lumière notre nature pécheresse, notre façon de raisonner et notre impuissance. Les gens ne veulent pas entendre ce que l'Évangile déclare. Voilà pourquoi ils sont souvent si hostiles au message. Si hostiles au message. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu si on ne parle pas du péché, quoi. C'est impossible, quoi. Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi il m'a aimé? Pourquoi il m'a aimé? J'aime bien mieux l'amour d'une femme, l'amour d'un homme que je connais, que je vois, que de prendre l'amour, d'accepter l'amour, de vouloir connaître l'amour d'un Dieu qui est esprit, que je connais pas, quoi. Mais on doit d'abord parler du péché, expliquer que Dieu nous aime, et pourquoi il nous aime, mais pas seulement qu'il le dit, mais dans la pratique, il l'a démontré, il a sacrifié ce qu'il y avait de plus cher, il a sacrifié la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés. Le problème avec la Bible, c'est que les gens aiment bien mieux lire dans un missel, lire des litanies, parce que c'est souvent soulageant, c'est réconfortant, mais pourquoi les gens ne veulent pas lire la Bible? C'est parce que la Bible, elle met en lumière ce que nous sommes. Et Jacques nous dit qu'il parle du miroir. Et le miroir, quand vous vous regardez dans un miroir, c'est pas vous, c'est pas votre visage, là, qui est dans vous. Vous êtes pas capable de vous toucher au visage quand vous regardez dans votre miroir. C'est seulement le reflet de ce que vous êtes. Et vous croyez, en regardant dans le miroir, que vous ressemblez à ça, que vous êtes ça. Eh bien, quand quelqu'un lit l'Évangile, s'il y a un cœur ouvert, l'Évangile est comme un miroir, quoi. Quand vous regardez l'Évangile, vous dites, écoute, il parle de quelqu'un d'autre, mais là, il est en train, quelqu'un d'autre, mais je me reconnais très bien, moi, dans ça. C'est un miroir. L'Évangile reflète, finalement, à travers des personnes qui sont, qu'on parle de Genèse, aller à Apocalypse, l'Évangile, la Bible, elle reflète ce que nous sommes, quoi. Et on peut faire comme Jean dit, tu te regardes, tu te retournes, tu t'en vas, ça t'intéresse pas. Et c'est la même chose, souvent. Les gens veulent pas entendre l'Évangile à cause de, parce qu'elle leur permet de mettre en lumière ce qu'ils y sont, vraiment, quoi. Quelqu'un a dit, si vous tracez un cercle avec une craie blanche sur le sol autour d'une oie, elle ne sortira pas du cercle. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce test-là? Non? Bon, achetez-vous pas une oie exprès pour faire le test, mais apparemment que si vous faites un rond avec une craie, vous avez une oie qui est au milieu, eh bien, apparemment que l'oie, elle ne sortira pas du cercle par peur de traverser la marque blanche que vous avez tracée. Intéressant, ça, hein? De la même façon, les marques de craie de la critique, de la moquerie, de la tradition et du rejet empêchent beaucoup de chrétiens de témoigner aux non-chrétiens. Paul savait que le message de l'Évangile ne pourrait pas être reçu avec enthousiasme, mais il refusait d'avoir honte de la bonne nouvelle. Il nous donne au moins trois raisons, et je vais essayer de regarder ça rapidement avec vous. Il donne au moins trois raisons pour lesquelles il n'a pas honte de l'Évangile. Et si nous saisissons ces trois raisons, cela vous aidera à proclamer le message avec une pleine assurance. Frères et sœurs, tournez avec moi dans Actes chapitre 4, verset 24. On va lire après ça 29 à 30. Bon, ça, on en a parlé pendant quelques semaines à l'étude biblique. C'est une des premières prières que les chrétiens vont adresser à Dieu. Une première prière qu'on entend de l'Église primitive. Et là, je viens de parler ici que si on comprend ces trois points-là qui sont compris dans les versets 16 à 17, on va proclamer l'Évangile avec puissance. Et ici, les chrétiens, ils se sont réunis. Parce qu'il y a des gens qui ont été, mis en prison. Pierre qui s'adresse au Sanhédrin et tout ça. Et au verset 24, alors ils commencent leur prière et ils élevèrent la voix, ils prièrent, et ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 29. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et regardez pourquoi, afin que des miracles, des guérisons et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, ils n'ont pas fini de prier. Au verset 31, c'est exactement ce qui se passe. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Maintenant, j'ai fait une petite recherche, et vous lirez tout le livre des Actes. Eh bien, tout au long du livre des Actes, Dieu va répondre à la prière des croyants. Il va étendre sa main pour que des guérisons, pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de son saint serviteur Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, vous avez le droit de penser, comme certains, que les miracles, les guérisons, les prodiges, ça s'arrête à la fin du livre des Actes. Vous avez le droit de penser ça. Moi, je ne le pense pas. Hein, ceux qui sont cessationnistes, ils croient que certains dons sont disparus, ils croient que certains pouvoirs sont disparus. Moi, je ne suis pas de cette école de pensée-là. Maintenant, frères et sœurs, si vous croyez que Dieu peut accomplir encore des guérisons en étendant sa main aujourd'hui, des guérisons, des miracles et des prodiges, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi on ne les voit plus, ces miracles, ces guérisons, ces prodiges? Puisque l'Évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux, pour amener au salut tous ceux qui croient, les Juifs comme les non-Juifs. Pourquoi? Intéressant, non? C'est une question qu'on peut se poser. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est pas que l'Évangile a perdu de sa puissance, mais c'est peut-être nous qui vivons pas nécessairement la vie que les premiers chrétiens vivaient à l'époque. C'est possible, ça? C'est une question que je me suis posée, quoi. Moi, je suis en train de lire un livre d'un chrétien qui vit encore aujourd'hui, Michael Taylor, qui a réalisé à travers des faux enseignements, entre autres sauvé, toujours sauvé. Il dit, écoute, moi, je peux vivre dans le péché, j'ai été sauvé une fois, sauvé toujours. Et puis, écoutez, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix. Il raconte son témoignage qui est énormément touchant, quoi. Et à un moment donné, il a tout mis ses doctrines de côté qu'on lui avait enseignées à la faculté, puis là, il a commencé à plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et il a compris pourquoi il n'y avait pas cette joie et cette paix. C'était un chrétien qui faisait des compromis. C'était question, quelqu'un qui s'appuyait sur des fausses doctrines. Et il dit finalement, au bout du compte, je m'aperçois que j'étais sur le chemin de l'enfer, quoi. Parce que je répondais pas aux critères de Dieu. Oui, j'avais accepté Jésus comme Seigneur, mais comme Sauveur, mais comme Seigneur. Ça veut dire quoi? Finalement, je faisais pas dans ma vie ce que lui me demandait de faire, je faisais dans ma vie ce que moi j'aimais faire. Et finalement, j'en avais rien à cirer de Jésus. Jésus, je l'appelais quand j'en avais besoin, quand j'étais coincé, quand il n'y avait plus de solution humaine, là, je criais à lui. Et là, s'il ne répondait pas, ben j'essayais de trouver du réconfort, de l'encouragement et des solutions à droite et à gauche sur les hommes. Vous avez vu aller ça, Michael Taylor, vous lirez. C'est assez percutant. Percutant sa reconversion, sa reconsacration au Seigneur. Et là, maintenant, il dit, écoute, je marche comme les chrétiens de l'Église primitive. Ça m'a pris 9 mois. 9 mois pour dire, Seigneur, moi, je veux renoncer à moi-même. Toi, tu as renoncé à toi-même pour venir sur la terre, pour te sacrifier pour moi. Maintenant, j'ai compris, Seigneur, que si je veux te servir, je dois renoncer à moi-même et je dois porter ma croix. Et il dit qu'il y a eu des combats terribles. Il dit que le diable est venu lui chuter des choses dans l'oreille. Ah, c'est pas de Dieu ce que tu fais là. Voyons, ben non. Fie-toi sur la grâce, ben non, t'as pas besoin de demander pardon à Dieu pour ça. Ben non, c'est un petit péché, ça. Et pendant 9 mois, il dit que son combat était pendant 9 mois. Et quand il a obtenu la victoire finale, au bout de 9 mois, il dit que là, il peut mettre en application. Et il peut prier cette prière d'Actes chapitre 4. Il peut dire maintenant aux gens que Dieu est encore sa main aujourd'hui pour faire des guérisons, des miracles et des prodiges, non seulement au milieu de son peuple, mais parmi ceux qui ne le connaissent pas. Et là, il en vient à la guérison. Il en vient aussi à la conversion. Frères et sœurs, c'est pas normal qu'on travaille comme des cinglés pour amener les gens à Jésus-Christ, alors que la puissance se trouve dans le message, pas dans le messager. C'est pas normal. Alors, ça peut être le messager qui fait obstacle à ce que la puissance dans le message puisse se manifester dans le monde. Et moi, je me remets en question à ce niveau-là. Moi, je remets en question ma vie chrétienne sur beaucoup de points, sur mes doctrines sur beaucoup de points. Parce que je me dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure qu'on passe des semaines à planifier une campagne d'évangélisation, qu'on passe des mois, qu'on se déchire, qu'on se défonce pour annoncer ton message. Je veux croire que le monde, le cœur est dur, le cœur des gens dans le monde. Mais je vais vous avouer quelque chose, le cœur du monde a toujours été dur, quoi, l'Évangile. Et la seule façon de briser ce rocher dur dans le cœur des gens, c'est par l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour convaincre. Écoutez, je connais dans des facultés qu'on enseigne qu'on ne doit plus prêcher sur le sang de Christ, quoi. Ah, mais c'est grave, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas, mais c'est à nous à l'expliquer qu'est-ce que c'est le sang de Christ, quoi. C'est à nous à l'expliquer. Oui, mais dis pas ça aux gens que le sang de Christ purifie de tout péché, ils ne comprendront pas. Ben, expliquons-leur, quoi. Mais si on évacue le sang, ben, évacue la croix, quoi. Hein? Enlève la croix. Le sang, c'est la vie. Et la vie, c'est Christ qui a donné sa vie. Et sans le sang, qu'est-ce qu'il nous dit? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. S'il n'y a pas de sacrifice, c'est impossible qu'on puisse savoir nos péchés pardonnés. Paul dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et frères et sœurs, si cette puissance, elle revient au milieu de nous, parce qu'on a pris le temps de s'examiner, parce qu'on a pris le temps de dire, Seigneur, c'est peut-être pas ta parole qui fait défaut, c'est peut-être nous qui faisons défaut. Dans la façon qu'on le proclame, dans notre comportement, dans notre vécu. Si on est capable de se rendre jusque-là, quoi, de s'humilier, moi, je suis convaincu qu'on va voir la puissance de Dieu se manifester. Ouais. On peut dire à quelqu'un, es-tu au courant que tu es pécheur, es-tu au courant que tu es perdu pour l'éternité et qu'il y en a un qui a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aimait, qui t'a sauvé. Es-tu prêt à l'accepter? Es-tu prêt à accepter ce gars-là qui t'a sauvé? Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de faire des longues prières, on n'a pas besoin de commencer à expliquer, à donner un cours de théologie pour que les gens soient brisés. Moi, ce qui me parle, je vois des hommes de Dieu qui n'avaient même pas le temps de prononcer, d'ouvrir la bouche devant un micro, et les gens étaient dans l'assistance, ils étaient brisés en deux, ils voyaient le feu de l'enfer au pied de leur lit, ils criaient, dis-nous comment fermer cette porte de l'enfer, c'est ça que les gens criaient, quoi. Hein? Frères et sœurs, pensez-vous que Dieu n'est pas capable d'agir aussi avec puissance aujourd'hui? Et nous, on travaille, et vous savez ce qu'on fait? On se contente d'aller pêcher, on est des pêcheurs d'hommes. Hein? C'est ce que Jésus dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et on se contente de lancer la ligne, nous, avec un verre au bout et n'appât, en espérant qu'on va en accrocher un parmi le paquet qui passe, quoi. Hein? Ouais. Alors que ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est pas qu'on lance la ligne, c'est qu'on lance un filet. C'est que Dieu veut remplir un filet. Mais c'est à nous. C'est à nous de choisir si on veut ramasser un par un. Et souvent, à la ligne, vous savez ce qui arrive, on en échappe aussi, hein. En échappe. Et ça, c'est frustrant d'échapper un poisson. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pêché. Moi, j'ai pêché. Quand tu vois un gros poisson bondir de l'eau, hein, un brochet. Moi, j'étais pêcheur de brochet. Vous le voyez sortir de l'eau, puis qui monte à peu près à 3-4 mètres dans les airs. Et là, vous oubliez, là. Vous oubliez que vous devez serrer, quoi, hein. Ah oui, il monte, c'est pas pour rien. Il veut tout péter, quoi, hein. Et là, vous, il vous échappe. Quelle frustration, quoi. Et quand vous l'amenez dans la barque, eh bien, quelle joie de dire, hey, j'ai attrapé ce poisson-là. Frères et sœurs, le Seigneur, il y a plusieurs méthodes de pêcher. Mais je pense pas que pour son Église, le Seigneur veut qu'on pêche uniquement à la ligne. À la ligne, c'est un par un, ça. C'est un par un. C'est dans un à un. Mais je pense que Dieu veut faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il veut que vous lanciez le filet. Il veut que vous lanciez le filet. Les frères et sœurs, si on ramasse rien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de poissons. C'est qu'on sait pas comment les attraper, les poissons. C'est qu'on sait pas comment lancer le filet. Et le Seigneur, il veut nous montrer. Il veut nous montrer comment lancer le filet. Il va nous dire, lance le filet là, parce que le poisson, il est prêt à être ramassé. Place ton filet à cet endroit. On a besoin d'entraînement, on a besoin de pratique. Et frères et sœurs, Paul dit, l'Évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Pour quiconque croit. Il n'exclut pas personne, même des personnes de 77 ans. Il n'exclut pas personne. Vous êtes amen à ça? Et moi, j'aimerais bien que d'ici au mois de septembre, on puisse faire un examen de conscience. Moi, je m'en vais en tout cas à la mer. Je m'en vais à la mer vraiment confiant, parce que j'aimerais que le Seigneur me parle à travers ce que je vais vivre là-bas. Parce que je suis fatigué d'évangéliser et de ramasser à la ligne, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on ramasse au filet. Et je pense qu'avant de prier pour que les hommes se convertissent, on doit prier aussi avant pour que Dieu fasse un réveil dans nos vies, quoi. On peut pas réveiller les morts si on n'est pas nous-mêmes réveillés, quoi. On peut pas sortir les gens du coma si l'Église est dans le coma. Et frères et sœurs, si vous voyez pas de fruits, ben, vous allez finir par être découragés. Un arbre qui produit pas des fruits, nous dit Jésus, c'est pas nécessairement juste un mauvais arbre, mais c'est un arbre qui est mort, quoi. Et Dieu veut qu'on produise des fruits. Vous êtes d'accord avec ça? Et je suis convaincu que c'est juste à l'évangéliste, juste au pasteur d'amener les âmes à Christ. Vous êtes aussi appelés. Les réveils se sont pas faits à travers de grands pasteurs. Les réveils se sont faits à travers des personnes dans l'Église chez qui on ne porte même pas le regard. Ah, trop vieille. Ah, trop vieux. Ah, lui, il n'a pas des capacités physiques pour... Non. Le Seigneur entendait les prières. C'était un cœur brisé. Brisé. Brisé parce que chaque âme qu'il voyait... Il voyait le feu de l'enfer dans les yeux de ces personnes-là. Il les voyait plonger pour l'éternité. Frères et sœurs, une des raisons pour lesquelles on n'évangélise pas souvent, c'est qu'on a perdu de vue, à cause du message de l'amour de Dieu, on a perdu de vue que tout le monde qui meurt sans Christ s'en va en enfer. Ouais. Et ça, ça comprend vos enfants qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et j'espère que vous voyez le feu de l'enfer dans les yeux de vos enfants s'ils n'ont pas encore pris une décision pour le Seigneur. Frères et sœurs, peu importe les thérapies, peu importe les hôpitaux, seule l'Église a le message qui est suffisamment puissant pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'est pas populaire, le message. Un matin, je regardais sur CNBC, avant de m'en venir ici, un gars qui prêchait, voilà, une église peut-être de 20 000 personnes, j'écoutais le message. Ah, c'est agréable, ça. C'est stimulant. Oui, les gens, ils sont contents, ouais. Le péché est évacué. C'est juste la grâce à bon marché. Ouais. Si t'es pas riche, c'est parce que t'as du péché dans ta vie. Ouais. Pensée positive. Et pas. Lisez tous les passages dans les épîtres. Tous ceux qui ont prêché l'Évangile ont été persécutés. Un message qui est facile. Dire à quelqu'un que t'es pécheur, pensez-vous qu'il est intéressé d'entendre ça, lui? Vous direz, il arrête de m'insulter. Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? T'es bon, t'es gentil, t'as beaucoup de qualités. Hey, toi, là, on peut compter sur toi, tu as du potentiel. C'est le message qu'on entend dans le monde, quoi. Hein? L'Évangile, écoute, elle te ramène. Tu penses que tu es quelqu'un? Sans Christ, t'es rien. T'es rien sans Christ. Sans Dieu, t'es perdu, mon ami. Tu peux ramasser la fortune que tu veux, tu peux avoir les talents que tu veux, tu peux avoir le potentiel que tu veux. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, t'es perdu. Comment je? Ah oui, ouais, je vais t'expliquer maintenant. Qui est à partir de Genèse, avec Adam, ce qui s'est passé, pourquoi le monde est comme ça, est monté. Je l'ai fait avec Cathy et Gaetano ici. Ils m'ont posé exactement la question du geôlier de Philippe. Tu te souviens, Salvatore, hein? Il vient de me voir après le culte, que dois-je faire pour être sauvé? Ah! Je leur ai dit ce que Paul avait dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est-à-dire, mets ta confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, croire au Seigneur Jésus? Mets ta confiance dans ce que Jésus a accompli pour Frères et sœurs, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait à tous les jours? Ou si on le fait simplement une première fois, lever la main, s'avancer en avant, se faire baptiser, témoigner que on croit au Seigneur Jésus, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Croire au Seigneur Jésus, c'est mettre sa confiance dans ce que Jésus a accompli pour moi. Ça veut dire qu'en dehors de ce qu'il a accompli, il est impossible pour moi de gagner mon ciel. Il est impossible pour moi d'être trouvé juste aux yeux de Dieu. Il n'y a aucune bonne action qui peut en effacer une mauvaise. Au contraire, une seule mauvaise action, je suis punissable de mort. Une seule. Et la parole nous dit que Christ efface toutes nos mauvaises actions. Toutes nos mauvaises actions. Prends du courage pour Boris de venir en avant et nous raconter ça, non? Du courage. Es-tu là, Boris? Est-ce que... Pas du courage, beaucoup d'humilité, quoi. Les problèmes dans nos églises aujourd'hui, on veut tellement paraître parfait, quoi. Tellement paraître parfait. S'il fallait que le Seigneur descende avec sa caméra vidéo ce matin, zoom sur Valentin. Qu'est-ce que Valentin pense durant la semaine? Ce que Valentin vit durant la semaine, ça apparaît sur l'écran. Après ça, il lâche Valentin, puis il s'en va sur Salvatore, il s'en va sur Lilo. Et ça apparaît, ça défile. On n'aura pas besoin de prendre un coup. On n'aura pas besoin du soleil pour prendre un coup de soleil. Je pense qu'on aurait tous le visage rouge. Quoi. Ouais. On est tellement parfait, paraître parfait dans l'Église de Jésus-Christ. Et Paul dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver. C'est la prédication de la mort de Christ. 1 Corinthiens 18, je lui dis... Alors, si vous demandez aux gens, et ce, peu importe la religion qu'ils pratiquent, ce qu'ils ont besoin de faire pour être sauvés, ils vous donneront une longue liste de choses que vous êtes obligés de faire. Et la religion, c'est ça, quoi. Hein? Les bonnes actions, les bonnes actions à accomplir, les péchés que vous devez chasser dans votre vie, les œuvres charitables dans lesquelles vous devez donner votre argent, le comportement que vous devez adopter. Quoi. Hein? Je me souviens d'une époque où j'allumais des lampions, j'allais à l'église, j'allumais des lampions, quoi. Pas un lampion qui est assez fort pour faire entrer quelqu'un au ciel, quoi. Il fasse un seul péché. Et dans chacun des cas, on rassure les gens en leur disant à quel point cela peut les aider à être sauvés. Paul dit, c'est seulement par l'Évangile qui est la puissance de Dieu que vous pouvez être sauvés. Dieu est l'auteur du salut et l'élément déclencheur, c'est l'Évangile. On ne peut pas y arriver par nos propres forces ni par un autre moyen. Imaginez, frères et sœurs, un monde où tous les habitants sont atteints d'une maladie qui éventuellement va les conduire à la mort. Heureusement, il existe un remède. Malheureusement, il y a six antidotes, pardon, qui sont supposés guérir cette maladie, et chacun de ces antidotes possède une couleur différente. Rouge, bleu, jaune, vert, orange et violette. Chaque antidote semble être le bon, pardon, et pourtant, vous ne pouvez pas dire quel antidote va faire l'affaire. Peut-être qu'il faudra que vous en preniez deux, ou même trois en même temps. Et l'antidote rouge, elle va vous permettre de vous sentir bien. Elle va permettre de vous sentir bien sur le moment même. Et là, vous êtes rassuré. Mais l'antidote rouge, il ne guérit pas la maladie. Et il va vous conduire finalement à la mort. Vous prenez l'antidote bleu, qui vous pousse à venir en aide à d'autres personnes, ce qui vous amène en retour à vous sentir bien. Mais finalement, il ne guérit pas la maladie, et il va aussi vous conduire à la mort. Et puis là, vous prenez l'antidote jaune. Qui fait de vous quelqu'un qui encourage les autres à se sentir bien dans leur peau. Mais plus vous en prenez, et plus vous avez aussi besoin de vous sentir bien dans votre peau, hein, de vous sentir mieux, et de satisfaire votre besoin. Finalement, cet antidote va aussi vous conduire à la mort. L'antidote vert, eh bien, il mélange, lui, les effets du bleu et du jaune. Et là, il vous amène à écouter plusieurs voix dont les paroles blessent quelquefois les gens, et qui, à d'autres occasions, les soulagent. Les effets secondaires de cet antidote sont le compromis, la confusion et finalement la mort. L'antidote orange est un mélange des effets du rouge et du jaune. Et il vous permet de vous sentir bien quand vous utilisez les gens pour arriver à vos fins. Vous amenant à vous sentir bien sur le moment, pardon, mais aussi à vivre sans vous soucier des autres autour de vous. Et cet antidote aussi conduit à la mort. L'antidote violette, il vous guérit immédiatement, lui. Il mélange les effets du bleu et du rouge. Vous permettant de vous sentir bien sur le coup, au point où vous êtes complètement transformé et que vous voulez aider les autres. L'effet secondaire de cet antidote fait en sorte que vous finissez par vouloir parler aux autres de l'antidote violet, parce que vous savez que c'est le seul antidote qui est efficace. Non seulement il va vous épargner des souffrances terribles et sauver les gens d'une mort certaine, mais vous démontrez ainsi en leur présentant cet antidote jusqu'à quel point vous les aimez, parce que vous voulez eux aussi, qu'eux aussi, ils soient définitivement sauvés. Paul dit ici que ce salut est disponible pour quiconque croit. Il écrit qu'il est d'abord disponible aux Juifs et ensuite aux gentils. Et il est important de voir que ce salut est seulement pour ceux qui croient. Seulement ceux qui croient. Romains chapitre 6, Romains chapitre 5 en parle. C'est seulement ceux qui croient. Le salut, il est offert à tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui croient qui sont sauvés. C'est seulement ceux qui placent leur confiance dans ce sacrifice, que ce sacrifice est parfait, qu'ils peuvent recevoir un salut qui est parfait. Frères et sœurs, au verset 17, et on va terminer avec ça. Paul dit, parce qu'en lui est révélé, donc le lui ici c'est l'évangile, en évangile au masculin, parce qu'en évangile, dans l'évangile est révélé la justice de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est pas par la religion, c'est pas par les œuvres, c'est pas par domaine de philosophie, c'est par Christ seulement et c'est par la foi. C'est par la foi en Christ. Et il dit, par la foi et pour la foi. Et la semaine passée, ou il y a deux semaines, j'ai dit quelque chose, je ne suis pas convaincu que les gens avaient bien compris. La foi qui sauve, elle se démontre dans la pratique par une vie juste. Et celui dans la pratique qui mène une vie juste démontre qu'il y a la foi qui sauve. Et vous avez le passage ici. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Il vit par ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Et il va vivre pour ce qu'il croit. Celui qui vit continuellement dans le péché, il peut pas dire qu'il a la foi, puisqu'il vit pas pour la foi. Vous êtes d'accord avec moi? J'invente pas quelque chose, hein? Ah, c'est bien ce qu'il dit ici, Paul, hein? Parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu par la foi et pour la foi. Mais nous, on cite souvent à Habacuc 11.1, le juste vivra par la foi. Mais Paul rajoute quelque chose d'important. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas capable de dire ça. Il n'est pas capable parce que tant que Christ n'est pas venu, tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance qui peut venir, il est incapable de dire pour la foi. C'est de vivre pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour celui qui croit dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et celui qui croit dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, c'est celui qui est passé par une nouvelle naissance et lui, il est capable de vivre pour la foi. C'est clair ou c'est pas clair? Oui. Frères et sœurs, moi, je suis pas ici pour vous lancer des fleurs puis vous envoyer du parfum qui sent bon. Je suis simplement ici pour vous proclamer la vérité parce que moi, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur avec ce que je vous dis. Mais il est pas normal que quelqu'un qui se dit chrétien, qui a accepté Jésus-Christ, connaisse défaite, continuellement défaite par-dessus défaite et baigne dans le péché. Ça, c'est pas normal. Je regrette, mais c'est pas normal. Qu'un quelqu'un soit né de nouveau, qui vit des problèmes, qui vit des situations extrêmement difficiles, que même les gens du monde ne vivent pas, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie du combat spirituel, ça fait partie des attaques du malin. Qu'on n'est pas là pour glorifier, qu'on n'est pas là pour édifier, mais ça fait partie. Mais il n'est pas normal que quelqu'un prenne une décision, qu'il se reconnaît pécheur, qu'il vienne au Seigneur, et qu'après avoir venu au Seigneur, il soit moins heureux en tant que chrétien qu'il l'était dans le monde, quoi. Et j'ai des gens qui me le disent, ça. Et c'est pas normal. Je leur dis, écoute, est-ce que tu penses que tu vas être heureux la journée que tu vas mourir puis tu vas être au ciel? Mais tu te trompes, mon ami. Parce que la joie et la paix qui t'attendent au ciel, Dieu te la donne déjà dans ton cœur, quoi. Quand tu vas arriver en haut, c'est juste le décor qui change, hein? Tu seras plus dans un monde pollué, tu n'auras plus l'impression de vivre dans une grande poubelle. Tu vas rentrer dans le paradis. Ton décor va changer. Mais ta joie du salut, la paix que tu as reçue de Jésus-Christ, c'est la même, hein? Il n'y a rien qui change. Il y a des gens qui s'assoient dans l'église puis « Ah, Seigneur, viens me chercher, tu vois, je suis plus capable, Seigneur, je suis rendu au bout. » Écoutez, ils comptent les jours qu'ils vont mourir avant de mourir, quoi, parce qu'ils sont pas heureux. Et qu'ils auraient donc le goût de revivre ce qu'ils vivaient avant, mais oh non, non, Seigneur, parce que là, je suis pas heureux puis je vais être encore moins heureux. C'est ça la vie chrétienne, moi, je décroche, hein, je retourne dans le monde. Parce que dans le monde, écoutez, j'avais moins d'épreuves que quand j'étais chrétien. Et je m'en sortais souvent mieux par mes propres moyens que ce qui peut m'arriver présentement. Ce qui m'est déjà arrivé dans le passé. Parce que Dieu répond pas nécessairement toujours tout de suite, hein. Il permet un petit peu des souffrances, hein. Christ a appris l'obéissance. Dans les souffrances, ouais. Le Seigneur dit, pas de problème, j'ai entendu ta prière, mais très peu. Ah! J'ai tout un enseignement donné dans cette épreuve-là. Et je t'accompagne, je suis avec toi. Et fie-toi à moi, 1 Corinthiens 10, l'épreuve que tu vis n'est pas au-delà de tes forces. Maintenant, si ça peut te soulager, j'ai en plus la solution. Avant que tu aies eu l'épreuve, j'ai déjà la solution pour t'en sortir. Ouais. Frère et sœur, un chrétien, là. Hein? Pourquoi Paul avait pas honte? Pourquoi Paul était convaincu que c'était la puissance? Parce que Paul était convaincu, convaincu que ce qu'il prêchait, c'était la seule et unique vérité. Parce que Paul avait expérimenté la puissance de l'Évangile dans sa vie. Il était capable de dire dans l'Épître aux Romains, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Frères et sœurs, et je termine. Deuxième fois, ça approche. Frère et sœur, j'évangélisais avec quelqu'un. Je ne voulais pas vous condamner, juger personne. Qui évangélisait et qui avait une cigarette dans la bouche. Et qui racontait à la personne qui était esclave d'un péché, disait, écoute, Seigneur Jésus te délivre de tout. Et on en a parlé mercredi, je dirais pas qui. Vous savez ce que la personne y a dit? Écoute, quand tu seras délivré de la cigarette, tu iras me raconter que Jésus délivre de tout. Pas long, hein, un petit bout. Quand tu seras délivré de ça, tu feras me raconter que Jésus délivre de tout. De la boisson, de la drogue, du péché, tu viendras me le raconter. Mais pour moi, tu es disqualifié. Grand-chose, un petit bout. Un trou de cercueil. On appelle ça un trou de cercueil au Québec. Hein? Grand-chose, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est difficile, hein? T'es un cigare dans la bouche. Accepte l'Évangile, Jésus te délivre de tout. Et là, vous voulez continuer votre message, mais il vous en manque un peu. OK, je continue, quoi. C'est vrai, quoi. Hey, c'est anodin, hein, mais vous pouvez pas savoir. Les gens dehors, là, c'est pas des gens qui connaissent, c'est pas des gens qui connaissent la parole de Dieu qui veulent voir. C'est des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Hey, tu viens de me dire que Jésus délivre de tout? Alors, écoute bien, mets ton évangile de côté. Témoigne-moi maintenant ce que Jésus, dans quoi Jésus t'a délivré dans ta vie. Là, je vais commencer à t'écouter. Témoigne-moi. J'étais esclave de la pornographie, j'ai essayé des thérapies, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même et j'ai jamais été capable. Et quand je suis au pied de la croix, j'ai dit, Seigneur, je te confesse que la pornographie, c'est un péché. Non seulement c'est un péché, mais j'ai un gros problème avec ça. Ben, le Seigneur m'a délivré. Ah, OK. Là, tu commences à m'intéresser. Pourquoi? As-tu une délivrance, toi, avant dans ta vie? De fil en aiguille, frère et sœur. Maintenant, je vais te dire pourquoi je suis capable d'être délivré. C'est mon esclavage, la pornographie, lui, il l'a subi, quoi. Mon esclavage, la pornographie, il a subi la colère de Dieu pour ça. Que j'en sois délivré. Ouais. J'ai ouvert les portes à travers Jésus-Christ, m'a délivré de tout. De tout. Le problème, c'est qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes, quoi. Et Jésus le dit, hein, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter sa croix. Celui qui veut me servir, hein, pardon, doit renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. Hey, c'est quoi me suivre? Suivre mon exemple. Suivre mon exemple. Et il est capable de suivre mon exemple puisque je lui ai donné la capacité, il a le même esprit que moi j'avais. Le même esprit qui me permettait de dire non au péché dans le monde, dans mon 100% humanité, eh bien c'est le même esprit que je lui ai donné quand il est né de nouveau et il est capable de dire aussi non au péché. Mais le problème, je l'ai dit, c'est, je sais pas si c'est ici, ou à l'école du dimanche, à l'étude biblique. Le problème, c'est qu'on vous éduque que vous êtes des pécheurs graciés. Je le répète, je le dis. Lisez tous les évangiles, lisez toutes les épîtres, trouvez-moi une place où Paul dit qu'on est des pécheurs graciés. Nulle part. Nulle part. Ça, c'est de la doctrine calviniste, ça. On est des pécheurs graciés. Mais si vous êtes un pécheur gracié, vous allez continuer à vivre dans le péché parce que vous êtes des pécheurs graciés, votre nature n'est pas changée. Paul, lui, c'est drôle, hein? Quand un chrétien est né de nouveau, il dit que c'est un bien-aimé du Seigneur, que c'est un enfant de Dieu, que c'est un prêtre en Jésus-Christ, que c'est un co-héritier avec Christ, mais il n'utilise pas péché gracié. Ça fait partie de la doctrine de la prédestination, ça fait partie, ça enveloppe tout le calvinisme qu'on nous enseigne dans les facultés. Mais nulle part, Paul parle de péché gracié. Si vous êtes un péché gracié dans votre nature de pécheur, vous allez continuer à vivre dans le péché. Mais si vous réalisez qu'en Jésus-Christ, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été adopté dans une nouvelle famille, vous avez reçu une nouvelle nature qui permet à Paul et à Dieu de dire « mes bien-aimés », comme il l'a dit à Jésus, bien, ça change toute votre façon de voir les choses. Quoi. Et là, vous êtes capable de dire « oui, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit ». Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment ce matin. Et rappelez-vous, vous avez la puissance en vous, le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu vous a laissé la puissance pour convaincre quiconque que si Dieu les aimait pas, Dieu les aurait abandonnés à eux-mêmes. Et ils seraient condamnés pour l'éternité, perdus et damnés. Mais Dieu, dans son grand amour, a choisi que sa créature puisse avoir la possibilité de passer l'éternité dans sa présence. Et ça passe par Jésus-Christ. Et le message de l'Évangile, le message de la grâce de Dieu, c'est la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui se perdent, mais une sagesse pour ceux qui ont pris une décision pour lui. Amen.